partager ce soir une réflexion sur la compassion. La compassion qui est un des Brahmavihara, ces qualités du cœur avec l'empathie, metta, la joie, mudita, et l'équanimité, upekkha. Et la compassion est directement liée à la première vérité noble, c'est cette compréhension de la souffrance qui fait que la réponse que nous donnons à la vie est une réponse sereine, ancrée, bienfaisante, plutôt que paniquée, nerveuse et réactive. Donc la compassion, ça n'est pas tellement un état d'âme qu'une qualité de la conscience par rapport à l'expérience. Et au fond, la compassion ne peut se vivre que maintenant. Parce que maintenant, il y a cette qualité, au fond, ce lâcher prise du système de protection. Je n'ai pas tellement dans mes peurs, je suis fortement en train de gérer. Quelque chose lâche, s'ouvre, le cœur devient disponible à ce qui émerge en moi, mais aussi aux autres. Il faut une certaine capacité de silence pour être en compassion, une certaine capacité d'écoute. Et c'est ça que nous développons lorsque nous apprenons à recevoir l'impermanence de la vie, et particulièrement dans l'assise, quand toutes ces choses émergent, nous apprenons à nous lier à ce grand cœur silencieux de la conscience, compassionnée. Nous entraînons la compassion par rapport à l'autre, nous offrons notre compassion à l'autre quand il est fermé, réactif, à l'étroit, agressif, par rapport aux situations. La vie n'est pas simple. Souvent, nous sommes confrontés, que ce soit au niveau professionnel, au niveau du voisinage, de la famille, à des situations complexes et paradoxales. Et c'est notre choix de répondre avec la compassion. Et en nous-mêmes, si nous apprenons à inclure, à embrasser les aspects qui nous gênent, quelque chose se fortifie, quelque chose s'ouvre, parce que la compassion, ça n'est pas... C'est une force, c'est une puissance. Ça n'est pas seulement de la chaleur, de la tendresse. C'est aussi quelque chose de farouche face à l'inaccompli, de ferme, de décidé. C'est aussi un engagement. Nous sommes dans la compassion pour que la compassion porte des fruits, nous nous engageons vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de nous-mêmes, avec compassion. Et puis, c'est aussi une liberté. Nous sommes libres. Ça n'est pas un devoir. C'est quelque chose de joyeux. C'est une liberté de pouvoir être dans cette qualité compassionnée. Et dans l'exercice de la méditation, on l'a déjà vu, mais je le redis, combien c'est important de considérer les obstacles comme étant vraiment le chemin. Non pas un ennemi à abattre, mais une énergie à rencontrer. Et ça n'est pas facile. Lorsque le doute émerge, la première idée qui vient, c'est pas de me dire « Ah, voilà le dharma ». Et pourtant, c'est bien ça. Mais la première idée qui vient, c'est de me dire « Oh là là, je fais faux, je perds mon temps, qu'est-ce qu'il faudrait faire, je pourrais aller, je suis incapable, ça ne marche pas. » Et c'est là que la compassion permet ce retournement, cette transformation de l'aveuglement en confiance. Ce qu'on appelle les kilesa, c'est toutes ces énergies d'inaccompli qui bloquent, qui entravent, qui nous mettent dans des activités de stratégie ou de contrôle, qui nous activent. Et ce qui les a, ce qu'on appelle ce qui les a, c'est tout notre système défensif, en fait. Nous n'avons pas besoin d'en finir avec les kilesa. Ça n'est pas quelque chose, le but à atteindre n'est pas qu'ils n'émergent plus, c'est qu'ils émergent et qu'il n'y ait aucun pouvoir. Donc, à nous de savoir les rencontrer beaucoup, beaucoup, encore, plutôt que de chaque fois nous contracter et avoir envie de le rejeter. D'une certaine manière, lorsque nous luttons contre les kilesa, nous créons notre souffrance. Pas d'une certaine manière, d'une manière évidente. La compassion, elle est donc faite de patience, de soin et de douceur. Et pas seulement par rapport à la déprime ou à la douleur physique ou psychique, mais aussi par rapport à l'exaltation. Lorsque je suis exaltée, est-ce que je peux être en compassion ou en joie, mais une joie qui n'est pas dupe? Je ne saisis pas l'expérience, je la reconnais. La sagesse reçoit ce bonheur dans l'instant. Mudita, c'est cette réceptivité qui n'est pas enthousiaste, qui n'est pas je sais bien que je n'y suis pas. Mais juste maintenant, c'est comme ça. Et c'est bon à prendre. Ce qui empêche la compassion, c'est que le corps et l'esprit sont impressionnés par les expériences de la vie. Nous avons des impressions. C'est comme si on recevait un pot de peinture. Et ces impressions créent la non-clarté. Nous sommes dans l'obscurité, mais nous pouvons aussi être aveuglés par le soleil. Lorsque l'expérience est très bonne, il y a d'une certaine manière autant d'avidja, autant d'ignorance, si nous ne mettons pas l'expérience en lumière. Lorsque nous sommes dans cet aveuglement, nous oublions l'impermanence, nous oublions notre subjectivité, nous oublions la subjectivité du moi. Nous croyons que moi est réel dans cette expérience-là, c'est vrai. Ça sera toujours comme ça, c'est comme ça maintenant. Et nous créons ce je qui est redoutable. Parce qu'il nous, il nous sépare de ce qui est simple et bienfaisant. D'apprendre à voir cet instinct de rejet lorsque c'est douloureux et cet instinct de saisie lorsque ça ne l'est pas, c'est utile pour que nous trouvions cette sérénité de la compassion et ce cœur qui abandonne la lutte et qui s'engage, mais de la bonne façon, avec cette verticale, en même temps tendre et ferme. La souffrance est parfaitement inutile lorsqu'elle n'est pas mise en lumière. Sans conscience, la souffrance est parfaitement inutile. Mais à la lumière de la conscience, qu'est-ce qu'elle est belle? Qu'est-ce qu'elle développe, cette compassion? Donc, nous apprenons à d'abord devenir nous-mêmes objet de conscience. Je m'emploie moi-même pour connaître le qui suis-je, ou l'expérience dans l'instant. Quand je dis le qui suis-je, c'est ce processus de ce corps qui porte des sens et puis qui s'ouvre au monde à travers ces portes et qui ressent, qui se souvient, qui élabore. Et pour finir, qui parle. Je parle juste maintenant. Grâce à tout ça. Donc nous sommes objets de conscience et nous questionnons comment c'est. Et nous questionnons aussi comment est-ce que je me lis. Et dans le comment est-ce que je me lis, il y a cette qualité compassionnelle. Juste maintenant, je me lis à ce que je dis avec un cœur ouvert. Le cœur ouvert, il est aussi, il donne droit à l'erreur. Il y a cette bonté de connaître les limites de la nature humaine. C'est pas si facile de s'ouvrir à la compassion. Parce que nous nous mettons à nu, quelque chose se met à nu. Il y a cette très jolie parole, je crois que c'est Jack Canfield qui citait ça, pour montrer un peu cette difficulté de venir dans cet endroit de tendre ouverture qui est vulnérable. C'est l'histoire d'un père qui s'appelle Father Greg et qui est responsable d'un centre de détention pour jeunes à Los Angeles. Et c'est le premier entretien avec un loubar qui a été arrêté pour brigandage et port d'armes illicites. Il entre arrogant, vérifiant qu'il est le centre de l'attention, s'assied lourdement en échangeant avec moi une poignée de mains molles et méprisantes. Et je demande « Quel est ton nom ?»« Sniper » est la réponse. Ça veut dire « canardeur, tireur d'élite ». « Oui, je sais, vous avez des noms de bande, mais quel est ton nom ?»« Sniper », répond-il encore. « Ok, mec, je suppose que quand tu es sorti de son ventre et qu'elle a vu que tu étais un garçon, ta maman ne t'a pas appelé Sniper. Quel est ton nom ?»« Gonzalez », dit-il à contre-cœur. « Oui, c'est ton nom de famille. L'administration te nomme ainsi. Mais comment ta maman t'appelle-t-elle »« Cabrone », dit-il. Mais il n'y avait pas la moindre parcelle d'innocence dans sa réponse. « Oh, je sais, Superman, mais je ne parle pas ici de ton livret de famille ni de ton certificat de naissance. » Je me mis à rire et le jeune sourit légèrement. Et avec un certain embarras et une toute nouvelle vulnérabilité, il dit « Napoleone » et sa voix avait un doux accent espagnol. « Waouh, ça c'est un beau nom, historique, noble. » Mais je suis presque sûre que ta maman n'utilisait pas le nom entier. Dis-moi, Milito, as-tu un petit nom? Comment t'appelait ta maman? Je le vis aller loin dans un passé qu'il n'avait pas visité depuis longtemps. Sa voix, son corps tout entier, prirent une forme toute nouvelle, juste là, devant mes yeux. D'une voix calme et tendre, il dit « Parfois, quand ma maman n'était pas fâchée ou trop occupée, elle m'appelait Napito. » Ainsi, je vis ce jeune se transformer de sniper à Gonzalez, à Cabrone, à Napoléon et à Napito. Ne voulons-nous pas tous être appelés par le nom que nous donnait notre maman quand elle n'était pas excédée et fâchée contre nous? Nous sommes beaucoup aidés dans cette manière de dévoiler notre système de protection par le travail spirituel, par la présence qui nous permet d'être cette bonne maman qui sait dire un petit nom gentil à notre dureté, notre obstination, nos résistances. Et peu à peu, grâce à cette conscience, nous avons vu, nous avons rencontré. Et ces énergies lâchent cette emprise douloureuse et non compassionnée. Et quand nous avons mieux compris que quand il y a souffrance, ça n'est pas une malchance, c'est juste l'endroit qui nous demande « mais regarde-moi » avec bonté et compassion. Alors, nous abandonnons tout ce contrôle, cette exigence, cette culpabilité, ces jugements que nous rajoutons en croyant éviter de souffrir. Ce n'est pas seulement dans le bouddhisme qu'on propose de s'ouvrir à tout ce qui émerge. Il y a une très très belle parole des pères du désert qui dit « Garde ton âme en enfer et ne désespère pas. » Quand la souffrance émerge, c'est ok. Ils disent aussi la vraie prière et l'amour ne peuvent être vraiment que dans l'heure où la prière est devenue impossible et où votre cœur est devenu pierre. Et dans une retraite, parfois nous traversons des moments très très délicat et douloureux. Que nous avons à rencontrer. Et alors, quand nous faisons ce travail et que nous le faisons encore et que nous avons cette persévérance, cette confiance, cette foi d'une certaine manière, que par le silence, par l'effort répété, ça lâche, alors peu à peu, nous perdons l'intérêt pour moi. Moi arrête d'être au centre. Et qu'est-ce que c'est bienfaisant? Qu'est-ce que c'est bienfaisant de pouvoir s'ouvrir aux autres et offrir notre compassion autour de nous. Je ne sais plus où j'avais lu, l'illumination, c'est l'intimité avec toute chose. L'amour pour tout, l'amour pour rien. Agapé, ce que dans la tradition chrétienne, il y a ces trois mots pour l'amour. Eros, qui est l'amour plaisir, le plaisir de manger, le plaisir de la belle musique. C'est pas rien, Eros, hein? La musique de Mozart, waouh. L'activité sexuelle. Eros, philios, qui est les joies relationnelles partagées. Préciosité du besoin de l'autre et du partage, de la rencontre avec l'autre. Et dans Philios, c'est une rencontre choisie avec ceux qui nous sont proches, avec lesquels nous pouvons parler, nous avons les mêmes valeurs. C'est tellement bon, la Sangha, où nous pouvons partager nos valeurs, nous enrichir les uns les autres. Ou avec nos proches, parce que là, ce ne sont peut-être pas les valeurs qui sont les mêmes, mais ce sont ces liens karmiques, affectifs. Étonnant quelquefois. Et agapé, agapé qui est la conscience pure, l'amour universel pour rien et pour tout. Celui qu'on ne peut pas nous prendre parce que nous ne tenons pas à le posséder. Il est là. La compassion, c'est donc une manière de considérer le monde, de considérer l'expérience, de considérer le moi. Et dans la pratique de la méditation, c'est la seule chose qui change finalement, parce que l'expérience, elle est la même. Nous allons continuer à vivre l'impermanence. Nous vivons au niveau extérieur un moment très intéressant, vraiment un basculement au niveau sociétaire avec ce Covid. Alors, c'est à nous de trouver cette nouvelle spontanéité qui fait que nous nous dégageons de ce monde tout en y étant engagé. C'est paradoxal, mais c'est quand même comme ça. Et je m'y engage d'autant mieux que je n'y crois pas, que je ne suis pas aveuglée par le temps, par l'endroit où je suis. C'est fou d'imaginer que l'homme fonctionnait la même chose il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. En gros, il fonctionnait la même chose. Le Bouddha a écrit tout ce qu'il a écrit il y a 2500 ans. Imaginez combien la société était différente. Et le travail de conscience est exactement le même. Nous sommes testés dans nos relations, beaucoup. Et quand nous sommes dans la tourmente, nous avons toujours ce choix entre laisser tout monter au niveau mental et chercher le pourquoi, qui quelquefois c'est utile si je sais que je suis en train juste de chercher le pourquoi. Mais en général, je cherche le pourquoi avec l'idée que je vais trouver la solution. Il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas de réponse au pourquoi. Nous ne savons pas. Nous ne savons rien. Le Covid nous montre au moins ça. Juste re-questionner, mais comment c'est, être dans ce chemin de connaissance, comment c'est, et une connaissance psychocorporelle, maintenant, vous pouvez le faire maintenant, comment c'est maintenant, et comment est-ce que je me dis, compassion pour cette nature humaine qui est ce qu'elle est, avec sa beauté et sa misère. Avec cette perte d'intérêt, parce que nous avons manifesté notre intérêt pendant longtemps, toutes ces expériences perdent de leur pouvoir. Et ce qui reste, c'est cette sérénité qui, le Bouddha parle de cessation. Lorsque ça s'arrête, tout ça, il y a juste une vibration de bonté, une énergie d'ouverture. C'est, comment il s'appelle, Adyashanti qui dit, c'est du rien, mais quel rien. Et la cessation, c'est quoi qui s'arrête? C'est d'abord l'intensité émotionnelle. Nous en sommes libres, de plus en plus libres. C'est la soif, la peur de perdre et la soif d'avoir, à tous les niveaux, au niveau matériel, psychologique et spirituel. Pourquoi est-ce que nous traversons des états de concentration puissants? Pour une seule raison, c'est pour apprendre à lâcher. Parce que si je m'y croche, ça fait mal. La cessation de la résistance. Et puis, il y a une cessation assez intéressante, c'est, surtout en retraite, arrêter d'essayer. Nous essayons toujours. C'est fatigant. Nous essayons dur et puis il n'y a pas de résultat. Oh, je suis déçue. Et c'est vrai que nous pouvons voir combien c'est fatigant d'essayer d'être ceci, cela, d'essayer d'aider les autres, d'essayer d'être bien, d'essayer d'être bonne, d'essayer d'être heureux, d'essayer. Et avec la compassion, nous pouvons moins essayer et plus ouvrir le cœur. Plus juste être là. Et arrêter d'éviter la souffrance ou de sauter par-dessus pour de nouveau essayer d'être mieux, bon, peloton. Ah, c'est ok. C'est pas demain, c'est maintenant. Bien sûr que nous n'aimons pas avoir mal. Et puisque de toute façon ça va venir, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Soit je fais œuvre de connaissance avec l'instant tel qu'il est, soit je ne le fais pas, ce n'est pas un problème, mais ça reviendra. Même si ce que nous voulons est tout à fait wholesome, tout à fait bénéfique, vouloir être stable et compassionné, c'est pas demain, c'est maintenant. Comment est-ce que maintenant je peux sentir un corps qui est détendu et tranquille? C'est intéressant de voir comment le fonctionnement, c'est tout un sujet à aborder peut-être une fois, mais tout le problème des sankharas, ces constructions mentales, combien elles sont parfaitement utiles pour faire à manger, pour organiser une retraite, pour construire une maison. Mais lorsqu'il s'agit du travail spirituel, elles sont franchement gênantes. Parce que ça ne se fait pas au niveau mental. Je peux employer vaguement la pensée, mais ça n'est pas la pensée qui va me libérer. C'est justement ce lâcher prise de toutes ces constructions et ce silence intérieur qui peut s'installer. C'est une grâce, ça n'est pas quelque chose que je peux vouloir. Si je me sens misérable, là j'ai le choix. Je peux aller dans la tête, construire, j'ai un problème, voilà. Ou bien je peux aller dans la conscience. Et dans le ressenti. Et dans l'instant, dans l'intimité de l'instant. C'est, je vous raconte une petite histoire, vous voulez?
Oui.
C'est le Bouddha qui est un paysan qui va vers le Bouddha puis qui lui dit: oh, on m'a dit que vous étiez un grand maître, alors je viens vous demander de m'aider parce que vraiment ma vie est dure. Les dernières récoltes n'étaient pas super, mon fils ne veut pas être paysan après moi, ma femme, et voilà, c'est difficile avec elle, je ne sais plus quoi faire, est-ce que vous pourriez m'aider? Et puis le Bouddha lui dit: ah ben, je ne peux pas t'aider du tout, je ne peux rien faire pour toi. Puis le paysan lui dit: mais c'est dingue, on m'a dit que vous étiez compétent pour aider les gens, compassionné. Puis là, vous me dites que vous ne voulez rien faire. Et puis le Bouddha lui dit: non, je ne peux rien faire pour tes 83 problèmes, mais je peux peut-être faire quelque chose pour le 84e. Ah, alors volontiers. Et puis le Bouddha lui répond: eh bien, le 84e problème, c'est que tu ne veux pas avoir des problèmes. Et c'est bien comme ça que nous sommes, nous ne voulons pas avoir de problèmes. Eh bien, ce n'est pas le programme. La clé passe beaucoup par cette présence au corps, parce que la présence au corps, c'est un langage non-verbal. Et quand je peux sentir où se situe les kilesas, ce qui bloque, quand je peux m'unifier au corps et employer la pensée, plutôt que d'employer la pensée pour solutionner, la clé est dans la cellule. Donc l'exercice de la méditation, c'est beaucoup une transformation de nos besoins égoïstes en engagement désintéressé. Je suis juste là au service, j'ai pas besoin d'en faire trop, mais je réponds de manière adéquate à ce qui est demandé. Musset qui disait « L'individu est capable d'une grande compassion ainsi que d'une grande indifférence. Il nous appartient de nourrir la première et de combattre la seconde. » La force de la compassion, elle s'exprime beaucoup par l'image. Il y a un livre que j'aimerais citer, parce qu'en parlant de compassion, je trouve que ça vaut la peine. C'est un livre qui s'appelle « Dieu en enfer ». Et ce sont une famille chrétienne qui a sauvé les Juifs pendant la dernière guerre à Amsterdam. Je crois que c'était Amsterdam ou Rotterdam. Et puis... il y a deux passages qui, moi, m'ont beaucoup touchée, qui me reviennent toujours. À un moment donné, les deux sœurs, c'est surtout deux sœurs qui sont très engagées. Elles sont sur le balcon et puis elles voient la Gestapo qui arrête un horloger, je crois, qui habitait dans la maison d'en face. Et puis, une des sœurs voit que sa sœur prie, puis elle lui dit « Ah, tu pries pour ces malheureux ?» Et puis la sœur répond « Non, je prie pour les nazis. » L'aveuglement, quand le cœur est dur, c'est un aveuglement qui mérite compassion. C'est pas une compassion tellement facile. Mais c'est une compassion qui mérite notre intérêt et notre exploration. Parce que la haine ne s'arrête jamais par la haine. C'est toujours l'amour qui soigne. Nous le voyons bien avec notre inaccompli. Et je crois que je vous l'ai déjà lu, mais j'aime bien cette petite parole qui dit « Haïr nos ennemis, c'est comme de boire un poison et de croire que ça va les faire mourir. » Buvons le poison de la haine en croyant nous libérer. Et puis l'autre... passage, enfin il y en a encore deux autres, un autre qui pour moi m'a beaucoup touchée, c'est que finalement ces deux sœurs se font arrêter. Et puis elles se retrouvent à Buchenwald où c'est l'horreur. Les gens sont maigres à mourir, pleins de vermine, à dormir à 6 sur les couchettes pour 2. Et puis quand la nourriture arrive, et ben tout le monde se précipite, les femmes se tirent les cheveux pour la première qui aura une petite brique de pain. Et puis simplement ce que les sœurs décrivent, c'est qu'au bout d'une semaine, au lieu que tout le monde se crêpe le chignon pour avoir à manger, on entendait dans le baraquement « Mais vas-y, non, d'abord toi, moi j'irai après, vas-y, à toi. » Et d'une certaine manière... tout avait changé, tout a changé. Thich Nhat Hanh aussi décrit comment sur ces boat people, avec des gens dans des situations terribles, qui traînent sur la mer de Chine pendant des semaines avec personne pour les secourir, il suffit d'une personne qui connaît la compassion et qui la vit dans son corps pour que ça fasse boule de neige. Ouais, l'autre image dans ce livre que j'ai trouvé très belle, à un moment donné, il y a un tout petit enfant qui vient avec sa maman et puis qu'elle veut le cacher, elles ont un endroit où elle le cache dans la maison. Et puis, ben, ce petit enfant, il pleure, donc elles ne peuvent pas le garder. Et elles cherchent quelqu'un pour le prendre, et puis il y a un pasteur qui vient de l'extérieur, et puis quand il voit l'enfant, puis qu'il comprend que c'est un enfant juif qu'on veut lui donner, il dit « Mais non, mademoiselle, il ne vous faut pas garder cet enfant, vous vous rendez compte de ce que vous risquez, et puis pour votre père, vous n'allez pas, il ne faut pas prendre cet enfant, vous n'allez pas le garder, moi je ne peux pas le prendre non plus, il ne faut pas le sauver. » Puis à ce moment-là, le père arrive, et puis il prend l'enfant, et puis il dit « Il n'y a pas de plus grande joie, pas de plus grand, je ne sais plus quel mot, il emploie un très beau mot, que de garder cet enfant et de le sauver. Je le raconte, mais ça fait rien. Et puis, ils le gardent. C'est peut-être pour ça qu'elles se font arrêter. C'est Martin Luther King qui dit « C'est à chaque homme de décider s'il marchera dans la lumière de l'altruisme ou dans les ténèbres de l'égoïsme destructeur. » Et ce n'est pas un idéal. Ce n'est pas que nous devions nous trouver pas suffisants parce qu'il faudrait faire plus. C'est vraiment prendre notre place avec cette compassion au cœur et faire notre part. Humblement. Nous avons donc ces deux aspects de sagesse et de compassion. L'un qui est objectif, un peu froid, qui est nécessaire pour ne pas nous laisser envahir. Et l'autre qui est doux et tendre, et cet abandon de nos protections. Je vais finir avec une parole d'Ezra Baïda qui dit « Avant de se mettre en chemin, nous voyons nos expériences en termes de bien et de mal. Lorsque nous entrons vraiment dans le chemin, nous les voyons uniquement comme des opportunités pour nous éveiller. » Alors, je vous propose qu'on prenne quelques minutes en silence.